Les nouveaux chemins se demandent tous les jours si l'amour n'est pas la meilleure façon de contempler la beauté. En compagnie de Quentin Molinier, Géraldine Mesnin-Savoie, Jules Salomon et Marianne Chassor, avec cette semaine à la transmission orale des textes Georges Kless, en charge de l'extase musicale Assia Khalid, et la prise de son contemplative Damien Grelier. À 10h50, ce sera l'heure de parfaire votre éducation en retrouvant François Noodleman pour son journal de la philosophie. L'invité du journal aujourd'hui sera Éric Pommier qui viendra vous parler d'Anne Sionnaz et du principe de responsabilité à propos de son livre paru aux éditions PUF. Après Condorcet, l'école républicaine, hier, avant Rousseau et son éducation sans livre, demain mercredi, et le maître ignorant de Jacques Rancière, jeudi, c'est aujourd'hui le deuxième temps de notre semaine consacré à l'éducation, en compagnie du philosophe Fulcran Tesserin, venu nous initier au banquet platonicien, qui fait de l'amour la meilleure éducation de l'âme. Imaginez des convives étendus sur un lit, la partie supérieure de leur corps tournée vers la droite, se maintenant à l'aide du coude gauche sur les coussins et prenant à l'aide de la main droite la nourriture et la boisson qui se trouvent sur une table à gauche du lit. Ce soir-là, les invités d'Agathon ne boiront que peu de vin, mais chacun s'enivrera en prononçant des éloges de l'amour jusqu'à ce que, au milieu du souper, fasse irruption un individu non convié du nom de Socrate. Alors Agathon, qui était seul sur le dernier lit, s'écria « Viens ici, Socrate, t'installer près de moi pour que, à ton contact, je profite, moi aussi, du savoir qui t'est venu alors que tu te trouvais dans le vestibule. Car il est évident que tu l'as trouvé et que tu le tiens, ce savoir. » Socrate s'assit et répondit « Ce serait une aubaine, Agathon, si le savoir était de nature à couler du plus plein vers le plus vide, pour peu que nous nous touchions les uns les autres, comme c'est le cas de l'eau, qui par l'intermédiaire d'un brin de laine coule de la coupe la plus pleine vers la plus vide. S'il en va ainsi du savoir, j'apprécie beaucoup d'être installé sur ce lit à tes côtés, car de toi, j'imagine, un savoir important et magnifique coulera pour venir me remplir. Le savoir qui est le mien doit être peu de choses, voire quelque chose d'aussi illusoire qu'un rêve, comparé au tien. » Qui est brillant et qui a un grand avenir, ce savoir qui, chez toi, a brillé avec un tel éclat dans ta jeunesse et qui, hier, s'est manifesté en présence de plus de 30 000 Grecs. Bonjour Fulcran Tesserin.
Bonjour Adèle Andrés.
Bienvenue sur Les Nouveaux Chemins. Vous
Merci
êtes
beaucoup.
Professeur de philosophie en classe préparatoire au lycée Voltaire d'Orléans. Et c'est vous qui allez nous initier à l'éducation selon Platon, selon Socrate, en tout cas dans le texte du banquet. Je viens de lire un extrait de ce texte, donc l'irruption de Socrate lors de ce banquet organisé par Agathon. Agathon qui a gagné la veille un prix pour avoir récité des tragédies. Et alors dans cette scène, nous est donné à voir ou à entendre un aspect particulier peut-être des modes de transmission. De transmission du savoir, puisque Socrate dit qu'en se mettant proche d'Agathon, ou Agathon convie Socrate à se rapprocher de lui, puisque par contact va pouvoir se faire une forme de transmission que Socrate décrit en disant le plein qui va se déverser vers le vide.
Oui, ça c'est la métaphore, je dirais, traditionnelle de l'enseignement. Le maître sait, le disciple ou l'élève ne sait pas, et le savoir va passer de l'un à l'autre. Donc évidemment, Socrate pousse cette représentation jusqu'à son extrême, jusqu'à la caricaturer en imaginant finalement que cette relation se fait comme l'eau qui passe d'un vase plein à un vase vide. Et l'ironie de Socrate, c'est qu'il retourne cette image, puisqu'il se dit que, maintenant, c'est lui qui va se mettre à l'école d'Agathon, dont le savoir a effectivement été applaudi par la foule réunie hier au concours dramatique. Donc, il y a ici quelque chose d'assez amusant et d'assez ironique de la part de Socrate. En tout cas, une remise en cause d'entrée de jeu de la représentation traditionnelle de la transmission du savoir. Transmission du savoir qui, chez les Grecs, était évidemment, en tout cas dans l'Athènes du 5e et du 4e siècle avant Jésus-Christ, une transmission qui, pour la part la plus noble du savoir, reposait sur une complicité, disons, homosexuelle.
Alors, c'est-à-dire peut-être qu'on peut développer ce point-là dès à présent, puisqu'il est important de comprendre que ce qu'on entend par homosexuel aujourd'hui ne s'applique pas de manière très précise à ce qui avait lieu à l'époque. Et surtout, on a du mal à comprendre comment ces rapports homosexuels peuvent faire partie de l'éducation à l'époque.
Alors, ils font partie de cette éducation qui n'est pas l'éducation initiale, qui est l'éducation... soit l'éducation du citoyen, soit l'éducation de l'honnête homme, de l'homme accompli, de l'homme vertueux, de l'homme qui est dans son, qui va développer toutes les capacités qui sont les siennes, qui va donc atteindre sa maturité d'homme. Et cette éducation-là, elle est classiquement représentée comme étant dépendante d'un lien qui unit l'aimé à l'amant. C'est l'amant qui est en charge de parfaire l'information de son aimé. Et donc, il y a toujours forcément une différence d'âge. Et à cette différence d'âge est associée en même temps une différence de culture et une différence de savoir. En tout cas, ça, c'est l'idée que les Grecs, disons l'élite grecque, la société, la bonne société athénienne, pouvait se faire, dans certains cas, de ce que devait être l'éducation du citoyen, l'éducation de l'homme accompli, du kalos agathos. Voilà. Mais ça, Socrate s'inscrit dans ce modèle-là et en même temps, il le subvertit de l'intérieur. Il le subvertit de l'intérieur, d'abord évidemment parce qu'il s'en moque. La métaphore du vase plein et du vase vide est évidemment une façon de récuser ce modèle-là. Et je dis, il s'inscrit parce que lui aussi est un animal érotique. C'est un homme qui a la passion des jeunes gens. Et on le comprend parce que les jeunes gens, c'est l'énergie, c'est l'enthousiasme, c'est le désir de savoir qui est encore tout neuf, qui n'a pas encore été corrompu. Et évidemment, Socrate aime à se réchauffer au contact de cette jeunesse. Et donc, il a le goût des jeunes gens, il a le goût de leur éducation et de leur formation, mais en même temps, la manière dont il les forme est une manière paradoxale, puisque elle revient finalement à les purifier, à les nettoyer de leurs fausses opinions, de leurs croyances qu'ils prennent à tort pour un savoir. Donc, c'est un maître négatif, pourrait-on dire, c'est un maître réfutatif, d'abord. Alors après, il peut y avoir autre chose, mais le premier aspect par lequel Socrate enseigne, c'est d'abord celui qui consiste à purger l'âme de son disciple des opinions, des fausses opinions qui l'encombrent.
Mais voilà. Alors pourquoi a-t-il besoin d'être dans une relation amoureuse envers son disciple? Si le but est d'éduquer l'âme de celui à qui il enseigne, pourquoi y a-t-il un lien amoureux entre les deux? Pourquoi parle-t-on de l'amant et de l'aimé alors qu'il pourrait très bien y avoir un rapport de professeur à élève sans qu'il n'y ait aucune émotion qui intervienne?
Oui, mais un professeur est celui qui a un savoir à transmettre. Socrate n'a rien à transmettre de ce point de vue-là. Sinon, peut-être, de faire partager à son disciple un souci commun, c'est-à-dire celui que chacun devrait avoir de se soucier de son âme. C'est le souci de soi qui forme en quelque sorte la clé de la relation érotique qu'il peut y avoir entre l'amant et l'aimé. L'amant apprend à l'aimer, à se soucier de lui-même. Et il trouve dans la manière dont l'aimé se soucie de lui-même un miroir, en quelque sorte, par lequel lui-même conforte le souci qu'il va prendre de soi. Donc je pense qu'il peut y avoir une relation érotique entre Socrate et les jeunes gens dont il aime à s'entourer, parce que dans tous les cas, c'est la question finalement du rapport à soi qui est en cause. Et c'est ça qui est peut-être de plus noble dans le savoir, c'est quand le savoir devient aussi une mise en cause de soi. Et c'est pour cela qu'il ne peut pas y avoir de transmission d'un point de vue socratique qui soit une transmission extérieure, qui soit une transmission qui consisterait finalement à faire passer une connaissance d'un récipient à un autre récipient. Hein. Il faut d'abord que chacun établisse un rapport à soi. Et le cadre de la réfutation socratique est celui-ci, hein, faire en sorte que chacun s'interroge lui-même. À partir du moment où il s'interrogera lui-même, alors il pourra se mettre sur la voie de la connaissance.
Alors ce qui est intéressant, c'est justement de voir que le recours à l'amour pour mieux mettre un homme sur la voie de la connaissance, comme si l'amour était peut-être le meilleur des moyens de se hisser vers une dimension, vers un au-delà, vers un ailleurs que le pur rapport de désir érotique entre deux corps qui mette l'homme face à une vérité qui lui apprendrait une vérité sur lui-même.
Oui, alors cette vérité... Bon, quand on prend, par exemple, évidemment, les pages les plus connues du Banquet où Diotime nous représente cette ascension de l'âme vers la beauté. Donc, on peut dire qu'il y a du même coup un mouvement de l'âme aussi vers la vérité. Beauté et vérité étant, de ce point de vue-là, solidaires l'une de l'autre. Mais on pourrait se dire, après tout, il y a peut-être un amour qui se porte vers le beau ou vers le vrai. Se porte-t-il encore vers l'aimer? N'est-il pas en quelque sorte nié par cet amour supérieur qui va le surclasser? Bon. Oui et non. En un sens, on peut dire qu'effectivement, chaque fois que l'âme dépasse, l'amour qu'elle a pour tel ou tel amant et qu'elle se porte, par exemple, à l'amour de la science, à l'amour du savoir, on pourrait dire que de ce point de vue-là, il y a abandon de la personne qui a servi de tremplin à cette transformation. Mais d'un autre côté, au contraire, on peut imaginer, et Platon le laisse entendre, qu'il y a au contraire un attachement supérieur qui va se créer pour cette personne-là, car précisément elle a été, pour l'amant, hein, l'occasion de cette transformation, l'occasion de ce passage. Et donc, il faut voir plutôt dans la personne aimée celle qui ouvre un chemin, hein, et qui manifeste qu'il y a un au-delà d'elle-même. Et après tout, qu'est-ce qu'il y a de plus beau chez quelqu'un, sinon le fait qu'elle ait effectivement une ouverture vers quelque chose qui est au-delà de ce qu'elle est, qu'elle montre plus que ce qu'elle n'est. Et donc, à partir de là, il peut y avoir un attachement très fort pour la personne qui a permis précisément cette évolution.
C'est-à-dire que Platon nous montre que le fait que nous tombions amoureux de quelqu'un est en réalité une façon pour nous de nous conduire vers une autre direction qui dépasse l'individu que nous aimons. Oui. Mais en même temps, ça ne veut pas dire que le désir que nous éprouvons à ce moment-là soit insignifiant et soit complètement et nous détourne de la voie que nous suivons à ce moment-là.
Non. Non, disons qu'on va au-delà de la personne, mais du coup, notre amour pour la personne en est renforcé.
Lors donc que la lampe fut éteinte et que les serviteurs furent partis, j'estimais qu'avec lui, il ne fallait pas y aller par quatre chemins, mais lui faire savoir en toute liberté ce que j'estimais avoir à lui faire savoir. Et en le poussant, je lui dis... « Socrate, tu dors ?»« Pas du tout, » me répondit-il. « Sais-tu à quoi je pense ?»« À quoi, au juste ?»« Je pense, » repris-je, « que tu es un amant digne de moi, le seul qui le soit. Et je vois bien que tu hésites à m'en parler. Rien, à mes yeux, ne présente plus d'importance que de devenir le meilleur possible. » Et j'imagine que dans cette voie, je ne puis trouver maître qui soit mieux en mesure de m'aider que toi. Dès lors, devant ceux qui savent à quoi s'en tenir, je serais beaucoup plus honteux de ne point céder aux vœux d'un homme comme toi que je ne le serais devant le grand nombre qui ne sait pas à quoi s'en tenir de céder à ses vœux. Il m'écouta et, dans le style qui lui est habituel, il me fit cette réponse. Mon cher Alcibiade, il y a des chances pour que, en réalité, tu ne sois pas si maladroit. À supposer toutefois que ce que tu dis sur mon compte soit vrai et que j'ai le pouvoir de te rendre meilleur. Tu vois sans doute en moi une beauté inimaginable et bien différente de la grâce que revêt ton aspect physique. Si donc, l'ayant aperçu, tu entreprends de la partager avec moi et d'échanger beauté contre beauté, le profit que tu comptes faire à mes dépens n'est pas mince. À la place de l'apparence de la beauté, c'est la beauté véritable que tu entreprends d'acquérir. Et en réalité, tu as dans l'idée de troquer de l'or contre du cuivre.
Fulcran Tesserin, dans ce passage du banquet où Alcibiade relate un épisode qui a eu lieu entre Socrate et lui. Donc Alcibiade est amoureux et fou amoureux de Socrate. Et pourtant, il n'arrive pas à le convaincre de céder à son désir physique. Désir physique qui, d'ailleurs, dans l'extrait qu'on a entendu, est décrit comme étant un moyen pour lui de faire de Socrate son maître. Il y a vraiment ici comme une dimension éducative d'emblée, et alors même qu'il évoque l'aspect purement physique. Et Socrate, pour expliquer les raisons pour lesquelles il ne veut pas céder à ce désir-là, lui explique qu'il y perdrait au change, que dans l'échange qu'il y aurait entre les deux corps, ce ne serait pas tellement beauté contre beauté, mais il troquerait de l'or contre du cuivre. Comment est-ce qu'on comprend ça?
Ah ben c'est le refus de l'échange. C'est le refus de l'échange, c'est le refus du commerce. Ah, le savoir n'a pas de prix. On ne l'échange contre rien. Socrate ne se fait pas payer. C'est ce qui le distingue des sophistes. Et donc, comme il ne se fait pas payer, il ne se fait payer ni en numéraire ni en nature. Voilà. C'est ce qu'ils sont en train de dire à Alcibiade. Si on a le goût du savoir, ce goût du savoir est hors tout commerce. Et l'enseignement, peut-être, est ce qui communique ce goût du savoir, mais rien ne peut le rétribuer. Et donc, il y a ici une fin de non-recevoir qui est opposée à Alcibiade. Il y a peut-être même une arrogance terrible de la part de Socrate, un orgueil démesuré. C'est un animal qui est, pourrait-on dire, de Socrate, qu'il est rempli de fumée d'orgueil. C'est ce qu'il dit dans le Phèdre. Mais cette arrogance-là s'explique par le fait qu'on ne transige pas avec la question du savoir et la question du désir de savoir. Ce désir de savoir est un désir qui est sans équivalent. Et c'est le refus de l'équivalence généralisée qu'implique l'argent ou qu'implique la relation sexuelle de l'Aphrodite vulgaire. Voilà. Et ça n'empêche pas qu'il y ait entre Alcibiade et Socrate, un attachement amoureux et érotique. Mais c'est un attachement qui, justement, parce qu'il sait ce qui fait le prix de cet attachement, refuse d'en faire quelque chose qui relèverait de l'ordre du commerce. Et donc, on peut en tirer une leçon. On peut en tirer une leçon, c'est que le vrai enseignement socratique est un enseignement aristocratique. Un enseignement qui refuse la condition salariée. Et de ce point de vue, on doit reconnaître que nous, les professeurs de philosophie, qui sommes des salariés, eh bien, nous ne sommes pas des Socrates. Nous ne dispensons pas un enseignement socratique. Et peut-être que tant mieux, car après tout, il ne s'agit pas non plus d'avoir des relations érotiques avec ses élèves. Enfin, d'un point de vue institutionnel. En tout cas, il faut bien voir que le professeur de philosophie, ce que nous sommes tous, enfin, en tout cas, dans notre, nous ne sommes pas des philosophes, nous sommes des professeurs qui enseignons la philosophie ou éventuellement l'histoire de la philosophie. Nous ne sommes pas des Socrates, nous ne pratiquons pas l'enseignement socratique au sens strict du terme, parce que, tout simplement, nous sommes des fonctionnaires et nous sommes des salariés. Et donc, nous avons une relation qui est une relation d'échange avec les gens avec qui nous travaillons, mais un échange qui, d'une manière ou d'une autre, est tarifé. Et donc, nous sommes hors du jeu socratique.
C'est sûr qu'il y a beaucoup de différences entre la façon dont Socrate transmettait le savoir philosophique et la façon dont les professeurs de philosophie aujourd'hui le font. Mais en l'occurrence, dans l'extrait qu'on a entendu, c'est Socrate qui insiste sur cette dimension d'échange et de commerce. Alcibiade, lui présente clairement les choses en disant qu'il est non seulement qu'il ressent quelque chose pour lui, mais qu'il pense que Socrate est un amant digne pour lui. C'est-à-dire que c'est un amant dont il pense qu'il peut jouer envers lui le rôle de maître. Et ça, c'est quand même très important. Ça veut dire que chez lui, le désir, voire l'amour, ne va pas sans cette dimension hiérarchique. Il veut que Socrate soit non seulement son amant, mais son maître. Et les deux semblent aller de pair pour lui.
Oui, alors parce que d'abord, Alcibiade a une très haute idée de lui-même. Peut-être à juste titre. Il est très beau physiquement, il est très intelligent, il est très entreprenant. Donc il lui faut un maître de premier choix. Quel maître peut-il avoir à Athènes, sinon Socrate? Et au fond, la fin d'ailleurs du banquet le dit, les motivations d'Alcibiade sont ambiguës. Bien sûr, il a été mordu au cœur par Socrate, qu'il a pris dans ce qu'il avait de plus tendre, l'intimité même de son âme.
Comme par un serpent.
Et effectivement, que lui a communiqué Socrate qu'il a ainsi mordu, sinon l'inquiétude de prendre soin de son âme. Et c'est cette inquiétude-là que lui rappelle constamment Socrate, et c'est la raison pour laquelle Alcibiade est à la fois tenté de voir Socrate et en même temps cherche à le fuir. Bon. Et donc il y a cet aspect-là, mais il y a aussi un autre aspect chez Alcibiade qui est quand même qu'il faut qu'il ait la meilleure éducation possible à Athènes. Hein. Il faut qu'il soit le premier des Athéniens. Et pour ça, il faut qu'il ait le premier des maîtres. Et la fin du banquet le montre, il est jaloux d'Agathon. Alcibiade est jaloux d'Agathon. Et donc, voilà, il y a ce personnage un petit peu énigmatique qui est Alcibiade, à la fois bouleversé par Socrate, en même temps désireux finalement d'inféoder Socrate à sa réussite politique et sociale. Et Socrate, évidemment, ne peut pas prêter la main à cela. Voilà comment je... Et alors, en même temps, évidemment, chez Alcibiade, il y a aussi cette problématique de la proximité physique avec le maître. Il faut être près du maître, car c'est en étant près du maître que l'on recevra sa parole et que l'on sera fécondé par le maître. Hein.
Il ne faut pas accorder ses faveurs à un homme qui aime et qui, s'est forcé, n'a pas son bon sens, mais bien à un homme qui n'aime pas et qui a tout son bon sens. Faute de quoi il se livrerait fatalement à un homme qui ne tient pas ses promesses, dont l'humeur est difficile, qui est jaloux, déplaisant, qui ruine sa fortune, qui a une influence désastreuse sur l'apparence et la santé de son corps, et une influence encore plus désastreuse sur l'éducation de son âme, l'âme qui, pour les dieux comme pour les hommes, est et sera toujours en vérité la chose la plus vulnérable.
Qu'est-ce qui t'arrive ? T'as rien entendu ? Le père Manolo ?
Ouvrez, ou je défonce la porte, et tout le collège sera au courant de ce que vous faites. Ignacio, je sais que vous êtes là. J'ai vu vos pieds. Je vous entends même respirer. Ignacio.
On n'a rien fait, je vous jure.
Phil, je m'occuperai de toi tout à l'heure.
Je veux pas qu'Ignacio reste avec vous tout seul.
Mais comment oses-tu me parler sur ce ton ? Tu sors de cette pièce immédiatement.
Je t'en supplie, Enrique. Fais ce qu'il te dit.
Allons à la chapelle. Oublions l'incident, Ignacio. De toute façon, je ne pourrai jamais me fâcher contre toi. Mais promets-moi que ce qui est arrivé cette nuit ne va pas se reproduire.
Enrique.
Je devrais l'expulser. Je suis sûr que c'est lui qui t'a entraîné dans les toilettes.
Non, c'est moi.
Ne pleure pas, Ignacio. Enrique a une très mauvaise influence sur toi. Moi, je ne veux que ton bien.
Si Enrique reste, je ferai ce que vous voudrez.
Tais-toi.
Je me vendis pour la première fois dans cette sacristie pour éviter l'expulsion d'Enrique. Mais le père Manolo me trahit et je me jurai alors de lui faire payer un jour cette dette.
Fulcran Tesserin, cet extrait de La mauvaise éducation, le film d'Almodovar qui date de 2004, exprime parfaitement les problématiques qu'on a abordées jusqu'à présent dans la relation d'éducation que Socrate peut avoir envers ses élèves, puisqu'on y entend à la fois la façon dont la morale du maître est déterminante dans l'éducation qu'il va transmettre, et c'est pour cela qu'Alcibiade se tourne vers Socrate, il sait que c'est le meilleur des hommes, et donc il veut le meilleur des maîtres, et comment en retour, un maître qui lui-même serait mauvais ne pourrait qu'avoir une mauvaise influence sur l'élève, de part en plus, influence qui serait aggravée par les sentiments amoureux qu'auraient les maîtres envers son élève. Dans l'extrait qu'on a entendu, on y entendait le père Manolo s'en prendre à un de ses étudiants, qui lui s'appelle Ignacio, dont il est amoureux. Il s'en prend à lui car il le soupçonne soupçonne, il l'accuse d'avoir retrouvé aux toilettes un autre étudiant qui s'appelle Enrique. Et donc, il lui fait promettre de ne plus jamais se retrouver avec Enrique et de lui faire une totale confiance. Et il me semble que cet extrait-là, et donc finalement, le père Manolo va trahir hein, Ignacio, puisque le père Manolo n'a fait que mettre en avant des arguments erronés ou corrompus pour mieux attirer Ignacio à lui. Et il me semble que là, on a un écho direct avec le texte de Phèdre, tiré du Phèdre de Platon que j'ai lu juste avant, où Socrate disait bien qu'il ne faut pas, se laisser accorder ses faveurs à un homme qui nous aime, car alors, s'il nous aime, son âme sera déjà un peu corrompue et il ne pourra pas nous transmettre le savoir juste qui lui revient.
C'est exact. Alors, l'extrait du Phèdre que vous avez lu, c'est le premier discours de Socrate. Et vous savez que Socrate va faire ensuite une palinodie. Hein. Il va avoir eu honte d'avoir parlé en si mauvais termes de l'amour. Et il va donc proposer un deuxième discours qui, lui, sera véritablement une éloge de l'amour. Bon, un éloge de l'amour. Alors, et le rapprochement que vous faites avec l'extrait de la mauvaise éducation est tout à fait juste. Ce père Manolo, finalement, évidemment, il est possédé par son désir. C'est un homme qui utilise son autorité pour obtenir ce qu'il souhaite. Et c'est un homme qui, finalement, a le statut du maître, en tout cas, institutionnellement, bénéficie de ce statut-là, mais ce n'est malheureusement rien un maître. Il n'a rien à transmettre, il n'a rien à dire. Et d'ailleurs, dans le film, on le voit très bien, c'est un homme qui n'a rien donné aux enfants dont il a eu la charge. On sait qu'il est professeur de littérature, mais on ne sait pas du tout ce qu'il a enseigné à ses élèves. Sauf que, évidemment, ce que l'on sait, c'est qu'il en a utilisé ou abusé un certain nombre, et probablement qu'il en a aussi abîmé un certain nombre. Voilà, voilà tout ce que... C'est le faux maître par excellence. C'est celui qui dispose du pouvoir et qui utilise ce pouvoir que lui donne l'institution. Socrate, de ce point de vue-ci, est l'antithèse, puisque à la fois il est hors institution, et en même temps, c'est celui qui récuse constamment la position du maître. Et il est d'autant plus maître qu'il récuse cette position de maître et qu'il est dans le refus de l'enseignement et du savoir. Et c'est ainsi qu'il transmet vraiment quelque chose. Parce qu'en refusant d'avoir à transmettre un certain savoir, il est celui qui va réveiller en quelque sorte l'appétit du savoir, le goût du savoir chez son élève, et qui en même temps va du même coup lui apprendre à se soucier de lui-même, parce que le savoir fait partie du bien de l'âme. Voilà.
Mais Socrate lui-même est amoureux d'Alcibiade, il le dit.
Mais justement, étant amoureux d'Alcibiade, il n'a pas à se servir d'Alcibiade. Il a éventuellement à servir Alcibiade. Mais servir Alcibiade, qu'est-ce que c'est ? Ce n'est pas satisfaire soit le désir d'Alcibiade de réussite sociale, soit éventuellement satisfaire son appétit sexuel à lui ou à celui d'Alcibiade. Le service qu'il doit rendre à Alcibiade est un service d'un tout autre ordre. Et c'est pour éviter la confusion des genres que, précisément, Socrate se refuse à Alcibiade.
Mais ce qui est étonnant, c'est de voir la façon dont une relation amoureuse ou un sentiment amoureux de la part de Socrate ne vient pas entraver ni les conditions qu'il établit dans son amour avec Alcibiade, ni son rapport au savoir et à l'éducation. Justement, il a un rapport à l'amour qui semble être apaisé, dont il ne semble pas faire les frais, alors qu'Alcibiade, à l'inverse, est complètement envahi par ce sentiment-là et il en souffre énormément. Et donc c'est étonnant de voir que c'est dans la relation amoureuse, notamment, que Socrate peut voir une vertu éducative, alors que l'amour, justement, aliène en quelque sorte l'esprit et l'âme. Et Socrate, au contraire, voit dans l'amour ce qui va nous mettre sur la bonne voie, puisque en désirant le corps d'un autre, nous pouvons nous hisser vers l'idée du beau en soi.
Oui, oui, oui. Alors, c'est une idée qui traverse le banquet, puisque c'est déjà une idée qui avait été amorcée par Pausanias dans un des discours en l'honneur d'Eros qui avait été prononcé par les convives. Et dans ce discours de Pausanias, justement, il est fait la distinction entre l'amour céleste, enfin Aphrodite céleste et l'Aphrodite terrestre. Et donc, il y a deux espèces d'amour. On pourrait dire que, dans une certaine mesure, l'éros socratique relève de l'amour céleste. Mais c'est là où Platon est extraordinairement malin. C'est en même temps quelqu'un qui n'ignore rien de l'amour terrestre et qui en connaît, je dirais, les ressorts et les affres. Sauf que c'est aussi la figure de Socrate qui est représentée dans le banquet. C'est celui qui maîtrise cet amour terrestre et qui donne à l'appétit érotique de son âme une autre orientation. Le désir, c'est, chez Platon, une force, un élan, mais il faut en modifier la direction. Et l'éducation, c'est ça, c'est modifier aussi la direction du désir. Et Socrate est un maître parce que Socrate est d'abord celui qui a modifié la direction de son propre désir. Et c'est ainsi qu'il pourra éventuellement transmettre quelque chose à ceux qui sont, à ceux qui l'écoutent ou à ceux avec qui il discute.
Toutes les fois donc qu'en partant des choses d'ici-bas, on arrive à s'élever par une pratique correcte de l'amour des jeunes garçons, on commence à contempler cette beauté-là. On n'est pas loin de toucher au but. Voilà donc quelle est la droite voie qu'il faut suivre dans le domaine des choses de l'amour, ou sur laquelle il faut se laisser conduire par un autre. C'est en prenant son point de départ dans les beautés d'ici-bas pour aller vers cette beauté-là, de s'élever toujours, comme au moyen d'échelons, en passant d'un seul beau corps à deux, de deux beaux corps à tous les beaux corps, et des beaux corps aux belles occupations, et des occupations vers les belles connaissances qui sont certaines, puis des belles connaissances qui sont certaines vers cette connaissance qui constitue le terme, celle qui n'est autre que la science du beau lui-même, dans le but de connaître finalement la beauté en soi.
Yo quiero que tú sufras lo que yo sufro. Y aprender a rezar para lograrlo. Yo quiero que te sientas tan inútil como un vaso sin whisky entre las manos.
Je me fais violence, je me bouche les oreilles comme pour échapper aux sirènes. Je m'éloigne en fuyant pour éviter de rester assis là à attendre la vieillesse auprès de lui. Il est le seul être humain devant qui j'éprouve un sentiment qu'on ne s'attendrait pas à trouver en moi, éprouver de la honte devant quelqu'un. Il est le seul devant qui j'ai honte, car il m'est impossible, j'en ai conscience, de ne pas être d'accord avec lui et de dire que je ne dois pas faire ce qu'il me recommande de faire. Mais chaque fois que je le quitte, je cède à l'attrait des honneurs que confère le grand nombre. Alors je déserte et je m'enfuis. Et quand je l'aperçois, j'ai honte de mes concessions passées. Vous écoutez France Culture, vous êtes sur les nouveaux chemins de la connaissance, il est 10h33 et nous parlons d'éducation en cette semaine de rentrée, mais aujourd'hui plus précisément de l'éducation chez Platon, ou plutôt l'éducation enseignée par Socrate, une éducation qui se passe hors de l'école, et pour en parler c'est le philosophe Fulcran Tesserin qui est avec nous aujourd'hui. Fulcran Tesserin qui l'on doit un commentaire du banquet de Platon qu'on trouve en Folio Plus Philosophie, dont on pourra bientôt lire un nouveau livre sur le sophiste du Platon qui paraîtra aux éditions PUF.
Yo te deseo la muerte donde tú estés. Por Dios que aprenderé a rezar para lograrlo.
D'un côté, on entend Socrate rapportant les paroles de Diotime. D'ailleurs, il n'est pas anodin que pour exprimer ce qu'il a à dire, Socrate fasse référence non seulement à une femme, mais à une étrangère, elle n'est pas athénienne. Ou donc il est dit que l'amour va nous conduire vers la droite voie. En tout cas, il y a une droite voie de l'amour à suivre qui peut nous permettre, qui peut nous conduire vers le beau en soi. Et juste après, d'entendre Alcibiade qui décrit les affres de l'amour auquel il est en proie et le fait qu'à la fois il adore tellement Socrate qu'il ne peut pas s'en passer, mais il en vient du coup à le détester puisqu'il lui fait ressentir un sentiment de honte. On est là dans deux approches totalement différentes de la relation amoureuse et donc de l'éducation à laquelle peut nous mener l'amour.
Alors oui. Oui, bien sûr, puisque la relation passionnée d'Alcibiade pour Socrate est une relation qui est en quelque sorte devenue obsessionnelle. Il y a seul Socrate qui compte et il n'y a pas d'au-delà apparemment de Socrate. À l'inverse de ce qu'on voit dans ce que nous décrit Socrate parlant pour Diotime ou rapportant les propos de Diotime, un dépassement continu de l'amour d'un corps vers l'amour de plusieurs corps, de l'amour de plusieurs corps vers l'amour des occupations, des sciences, jusqu'à l'amour du beau en soi. Donc, il semblerait qu'ici, il y ait effectivement deux mouvements, deux tensions différentes de l'âme. Alors, cette opposition doit être un petit peu tempérée à mes yeux, je crois, parce que Alcibiade est celui qui éprouve quand même un certain effroi devant Socrate. Hein. Il est sur le recul. Il y a quelque chose chez lui qui ne peut pas céder à la pulsion, au désir, hein, parce que dans le visage, dans le masque socratique, il y a quelque chose qui fait opposition à cela. Et il le sent profondément. Et ça rappelle ce que, dans le mythe du Phèdre, Socrate nous décrit à propos de l'attelage ailé de l'âme, hein, composé de deux chevaux et d'un cocher, et lorsque le beau apparaît dans la personne d'un jeune homme, eh bien, il y a à la fois désir sexuel, désir de posséder l'être aimé, et en même temps, il y a recul, il y a quelque chose qui résiste profondément à ce mouvement premier de l'âme, dans l'âme. Hein, il y a donc une réticence à l'intérieur de l'âme. L'âme est multiple, et donc il y a quelque chose qui, dans l'âme, s'oppose à l'âme. Et ça, c'est le privilège du beau. C'est-à-dire que le privilège du beau, nous dit Socrate, c'est que en lui, l'éclat du vrai, l'éclat de l'intelligible, l'éclat de la forme, se manifeste sans trahison. C'est peut-être dans l'univers sensible le seul moment où quelque chose de l'intelligible se donne finalement à voir aux yeux. Donc il y a dans le sensible quelque chose qui dépasse le sensible et qui est montré par le sensible sans trahir ce sensible. Et c'est ça à quoi l'âme est sensible quand elle rencontre le beau. Il y a à la fois, évidemment, le désir sexuel, et en même temps il y a ce même désir qui se trouve réfréné, qui se trouve parce que propulsé vers un ailleurs, cet ailleurs que la pensée ensuite pourra s'approprier dès lors qu'elle se met à interroger, à réfléchir, à poser des hypothèses, à scruter donc évidemment la diversité des formes intelligibles. Bon, et donc ça c'est pour montrer que il y a peut-être déjà chez Alcibiade, dans la rencontre avec Socrate, une amorce de ce que décrit le Phèdre. Et puis alors maintenant, si on revient à la description qu'a donnée Diotime, en tout cas Socrate parlant pour Diotime, il ne faut pas oublier aussi quelque chose qui est, à mon avis, très significatif. C'est que jamais Diotime ne dit que le passage à un autre objet d'amour signifie l'oubli du premier objet d'amour. Ça, c'est très important à mes yeux. Et on n'a pas aussi, suffisamment également souligné un des paradoxes de ce texte, qui est qu'on passe de l'amour d'un beau corps à l'amour de tous les beaux corps. C'est-à-dire qu'on passe de l'un au multiple. Ce qui est un mouvement assez surprenant dans la pensée platonicienne, puisque la pensée platonicienne est d'ordinaire une pensée qui insiste sur le passage du multiple à l'un. Alors évidemment, ce multiple, qui est celui de la pluralité des beaux corps, va être ensuite ressaisi à travers
un ultime,
mais on y arrive par plusieurs étapes. Ce qui veut donc dire que ce mouvement de l'un au multiple et du multiple à l'un est un mouvement qui n'exclut jamais le multiple de l'un, hein, mais qui le repense et qui le ressaisit de l'intérieur et qui lui donne son articulation véritable.
Donc en d'autres termes, c'est un intelligible qui n'exclut pas tout à fait le sensible.
Jamais. Platon n'est pas quelqu'un qui pense un un ineffable. Là, on serait dans le néoplatonisme.
Un un un.
Un un ineffable. C'est quelqu'un qui pense au contraire l'unité d'une multiplicité. Et donc, on n'a rien à... Je dirais que chez Platon, il ne faut renoncer à rien. En revanche, il faut tout transformer. Et donc, c'est ce mouvement de transformation qu'autorise Eros. Eros, c'est une puissance de transformation. C'est ce qui transforme l'âme et c'est ce qui transforme aussi les objets que l'âme se donne à elle-même pour penser. Et donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de pensée sans amour, hein, et il n'y a pas de véritable amour sans pensée. D'où la solidarité, forcément, entre le désir érotique et la philosophie. Le philosophe est un être qui est fondamentalement amoureux. Et l'amour de la pensée, c'est aussi, du coup, l'amour du beau, c'est aussi l'amour des beaux corps, c'est aussi l'amour des belles occupations. Mais tout ça étant, évidemment, ressaisi de l'intérieur.
Voilà. Ressaisi de l'intérieur, précisément aussi parce que, ça Socrate l'explique bien à travers la bouche de Diotime, c'est Eros lui-même qui explique à la fois les différentes étapes à suivre pour partir du beau sensible vers le beau intelligible, mais également cette difficulté, cette dichotomie, presque cette opposition au sein de l'âme que ressent un sujet amoureux. Vous avez parlé de la métaphore du char ailé, hein, qu'on trouve dans le Phèdre, puisque les deux chevaux qui vont dans deux directions différentes nous montrent bien le conflit intérieur à l'âme. Eros lui-même est le fils à la fois de Poros et de Peña, c'est-à-dire qu'il est le fils de l'expédient, de la générosité, du trop-plein, et de la pauvreté, du manque. Ce qui fait qu'Eros à la fois donne lieu au désir, puisque qui dit désir dit manque, et en même temps qu'il peut nous conduire vers quelque chose qui est plus de l'ordre de la plénitude. Il est intéressant de voir que le mythe d'Eros donne à Socrate ses arguments, ou même fonde la pensée de Socrate, qui elle est d'ordre plus philosophique et non pas mythologique.
Oui, alors, il y a dans cette filiation mythique de Eros, hein, fils de Poros et de Peña, Poros étant lui-même fils de Métis, hein, Poros le passage au sens propre du terme, l'expédient au sens figuré, la ressource au sens figuré, et puis Peña, la pauvreté, le dénuement. Et Eros est évidemment un être, un daimon, hein, un entre-deux, hein, qui participe de cette double nature. Et il en résulte que c'est quelqu'un qui est responsable du lien. C'est une puissance qui est responsable du lien entre le ciel et la terre, hein, du lien entre le corps et l'âme, du lien entre l'intelligible et le sensible. Et Socrate est possédé par Eros. Socrate est possédé par Eros et, à mes yeux, ça se voit particulièrement bien dans sa pratique dialectique et réfutative. Car quand il réfute, que fait-il sinon se mettre au service de Peña ? Mettre Poros au service de Peña.
C'est-à-dire la pauvreté.
Il met toute son intelligence, particulièrement habile et retorse, donc qui procède de ce point de vue-là de Poros, il la met au service de Peña au sens où, finalement, son élève, que fait-il ? Que fait-il de son élève ? Il lui enlève, le libère de toutes les fausses opinions qui l'encombrent. Et donc, la pratique cathartique de la parole socratique, hein, qui consiste à réfuter les croyances de ses interlocuteurs, est, de ce point de vue, une pratique tout à fait érotique. Hein. Elle est ce mélange de Peña et de Poros, destiné finalement à rappeler à l'âme sa nudité afin que précisément son désir de savoir soit restauré, hein, et qu'elle cherche par elle-même et trouve par elle-même ce qui pourra véritablement la remplir et la nourrir.
Ceux qui sont féconds selon le corps se tournent de préférence vers les femmes et leur façon d'être amoureux, c'est de chercher, en engendrant des enfants, à s'assurer, s'imagine-t-il, l'immortalité, le souvenir et le bonheur pour la totalité du temps à venir. Il y a encore ceux qui sont féconds selon l'âme. Oui, il en est qui sont plus féconds dans leur âme que dans leur corps, cherchant à s'assurer ce dont la gestation et l'accouchement reviennent à l'âme. Et cela, qu'est-ce donc ? La pensée et toute autre forme d'excellence. Quand par ailleurs, parmi ces hommes, il s'en trouve un qui est fécond selon l'âme depuis son jeune âge, parce qu'il est divin et que, l'âge venu, il sent alors le désir d'engendrer et de procréer, bien entendu, il cherche, j'imagine, en jetant les yeux de tous côtés, la belle occasion pour procréer. Jamais, en effet, il ne voudra procréer dans la laideur. Aussi s'attache-t-il, en tant qu'il est gros, au beau corps plutôt qu'au lait. Et s'il tombe sur une âme qui est belle, noble et bien née, il s'attache très fortement à l'une et à l'autre de ses beautés Et devant un individu de cette sorte, il sait sur le champ parler avec aisance de la vertu, c'est-à-dire des devoirs et des occupations de l'homme de bien. Et il entreprend de faire l'éducation du jeune homme. C'est que, j'imagine, au contact avec le bel objet et dans une présence assidue auprès de lui, il enfante et il procrée ce qu'il portait en lui depuis longtemps. Qu'il soit présent ou qu'il soit absent, sa pensée revient à lui. Et de concert avec lui, il nourrit ce qu'il a procréé. Ainsi, une communion bien plus intime que celle qui consiste à avoir ensemble des enfants, une affection bien plus solide s'établissent entre de tels hommes. Plus beaux, en effet, et plus assurés de l'immortalité sont les enfants qu'ils ont en commun.
Il est quand même surprenant, Fulcran Tesserin, d'entendre Socrate, donc ici plutôt Diotime, donc, mais dont les paroles sont rapportées par Socrate dans le banquet, insister sur cette notion de fécondité, même d'accouchement, d'un homme, même si c'est l'âme qui accouche d'une vérité, alors qu'il ne s'agit que de relations entre deux hommes à chaque fois. Donc même si Diotime elle-même va être celle qui va permettre de conduire la discussion, la conversation vers l'accouchement réel, donc entre une sexualité cette fois entre homme et femme, ça nous conduit ici vers l'idée d'un Socrate qui lui serait accoucheur, donc au sens métaphorique, au sens figuré du terme. On parle de maïotique, Socrate est celui qui fait accoucher les âmes de ses élèves. Et donc là, on est dans une dimension de l'éducation qui est bien particulière. C'est une éducation qui n'a pas uniquement pour vocation, à se ressaisir soi-même, à faire le bien pour soi, mais également à enfanter de quelque chose, à accoucher d'une nouvelle réalité. Alors peut-être qu'il faut accoucher de soi, mais il y a cette notion de transformation.
Alors il y a cette notion de procréation qui est fondamentale et qui est introduite par Diotime en la mettant en relation avec la question du temps et la question de la mort. Ça, c'est un classique, mais au fond, le vivant lutte contre la mort par la reproduction. Et c'est quand le nouveau remplace l'ancien que quelque chose peut se perpétuer. Bon. Alors, ça, c'est vrai pour la reproduction biologique, animale. Les parents se succèdent dans leur enfant, en quelque sorte. Et puis, c'est vrai aussi pour ce qui est de la création intellectuelle, de la création morale, même de la création politique, dit-il. C'est une façon pour l'âme de lutter contre le temps qui passe, de lutter contre la mort qui la guette, en laissant quelque chose qui va durer au-delà, évidemment, de son passage. Donc, il y a ce premier aspect, créer pour lutter contre la mort. Premier aspect. Alors, sur ce premier aspect vient se greffer une deuxième dimension qui est celle, évidemment, de la fécondité de la pensée. La pensée est capable, par son inventivité, et là on voit aussi encore quelque chose qui l'apparente à Eros, fertile en expédients, inventif, la pensée est capable d'engendrer quelque chose de nouveau. Et elle a besoin, évidemment, d'un certain nombre de circonstances qui soient propices à l'accouchement de ce dont elle est grosse. Et où trouve-t-elle ces circonstances favorables, sinon dans la beauté? C'est la beauté qui va permettre à l'âme de libérer ce dont elle est grosse, ce dont elle est riche, au fond d'elle-même. Et donc la beauté est nécessaire. Alors ça peut être aussi une autre explication de l'amour que Socrate a pour les jeunes gens. Il a besoin de cette beauté pour éventuellement se libérer de ce dont lui-même est gros. Ceci dit, Socrate dit dans le Théétète, déclare dans le Théétète que lui-même est stérile. Et donc Socrate, c'est l'accoucheur, c'est pas celui qui est...
C'est l'accoucheur qui lui-même n'accouche pas.
Lui-même n'accouche pas, il n'a rien dans son fond propre à transmettre, mais en revanche, il peut faire naître la pensée des autres et vérifier si oui ou non elle est valide, si elle est capable de survivre. Et il la met à l'épreuve ainsi. Et donc on a un renversement paradoxal, c'est que il faut que les âmes fécondes accouchent dans la beauté, mais il faut aussi qu'elles aient un accoucheur, et cet accoucheur c'est Socrate, mais Socrate lui-même déclare n'être pas fécond.
Monsieur José Manuel Berenguer.
Oui.
Je préférais perdre Manolo.
Pardon.
Petite erreur, l'émission se termine dans une minute, on voulait terminer avec un air de Rossini magnifique. Et pourtant, nous avons eu un extrait d'Almodovar, c'est pas grave, ça me permet de vous remercier quand même, Fulcrin Tesserin, d'être venu nous parler de l'éducation chez Platon aujourd'hui. Dans Le Banquet, on a évoqué aussi le Phèdre. Je renvoie les auditeurs aux commentaires que vous faites du Banquet de Platon, justement, en folio plus philosophie. Alors, je ne sais pas s'il est encore disponible, en tout cas dans les bibliothèques, mais c'est très utile, donc si jamais les auditeurs peuvent se le procurer, je le conseille. Et puis, je signale aussi que vous allez sortir un nouveau livre consacré aux sophistes du Platon, qui sera disponible
Au PUF, je ne sais pas, aux alentours de novembre.
Dans quelques temps, d'ici quelques semaines. Et je renvoie également les auditeurs pour en savoir plus sur Le Banquet de Platon, à l'émission de Raphaël Antoven, Le Gai Savoir, qui a lieu le dimanche à 16h, et qui porte cette semaine sur Le Banquet, justement. Il est 10h50, vous écoutez France Culture, vous êtes sur les nouveaux chemins de la connaissance, et 10h50, c'est l'heure de retrouver, comme tous les jours, François Nodelmann pour son journal de la philosophie. Bonjour François.
Bonjour Adèle. Le philosophe Hans Jonas a traversé tout le XXe siècle et a réfléchi sur ses tragédies politiques et sur ses révolutions techno-scientifiques. Son œuvre la plus connue, Le principe de responsabilité, l'a conduit à interroger concrètement les enjeux éthiques de la médecine et de ses nouvelles pratiques. Éric Pommier lui consacre un ouvrage, Hans Jonas et le principe de responsabilité, paru au PUF, et il a traduit un de ses textes, L'art médical et la responsabilité humaine, paru au CERF. Éric Pommier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur au CERCES. On pourrait peut-être d'abord rappeler la figure de Hans Jonas, finalement pas si connu que ça. Pourtant, il a traversé, je disais, tout le XXe siècle. C'est un philosophe allemand très reçu, très écouté, mais en France peut-être un peu tardivement.
Il est très écouté, il a été très bien reçu en Allemagne, beaucoup moins, me semble-t-il, en France. Et comme vous le dites, il a traversé le siècle, il a une philosophie remarquable, mais pas seulement une philosophie, également une vie remarquable. Il est né en 1903, mort en 1993. On fêtera ses 20 ans en 2013, les 20 ans de sa mort. Il est l'auteur d'une histoire de la tradition gnostique qui fait encore référence aujourd'hui. Il a poursuivi ses recherches ensuite dans le cadre d'une philosophie de la biologie qui, à mes yeux, est inouïe. Et il a poursuivi, comme vous l'indiquez, ses recherches. Il a même conclu ses recherches, d'une certaine manière, avec le principe responsabilité et une application de ce principe dans le cadre d'une éthique médicale.
Vous disiez aussi une vie singulière.
Une vie singulière parce qu'il était juif. Il a milité pendant un bref temps de sa vie pour le sionisme, et il a dû fuir l'Allemagne, qui subissait la tyrannie hitlérienne, et se réfugier en Palestine.
Et par la suite, alors ?
Et par la suite, il s'est engagé à revenir sur le territoire allemand, mais uniquement une fois libéré, c'est-à-dire, et c'est ce qu'il a fait, sous l'uniforme du soldat britannique.
Un mot, Éric Pommier, si vous voulez bien, sur ce livre majeur, Le principe de responsabilité. Alors, c'est par rapport à quoi ? Par rapport à la notion d'espérance ou d'utopie ? Qu'est-ce qui est en jeu dans cette notion de responsabilité ?
Jonas prend acte d'une modification radicale de l'essence de la technique. En conséquence de cette modification, sur laquelle on peut revenir si vous le souhaitez, il faut une éthique qui soit à la hauteur des enjeux de ces modifications. Et cette éthique ne peut être qu'une éthique de la responsabilité, c'est-à-dire qui prend en compte les conséquences de l'agir technique dans toute son envergure, c'est-à-dire en tant qu'elle porte. Elle porte un danger sur la vie, un danger sur l'humanité, mais aussi peut-être même un danger sur la nature.
Quand on le lit, à propos notamment de ce monde qu'il voudrait habitable, dont il faut respecter l'habitation, quand on lit aussi sa critique de le raisonnement technique du monde, on songe à une inspiration plutôt heideggerienne.
De fait, il y a une inspiration heideggerienne, pas que sur ce point. Hans Jonas a été l'élève d'Heidegger, il a été marqué par lui. Toute sa philosophie, d'une certaine manière, est un héritage, il assume l'héritage d'Heidegger, mais aussi il s'en démarque, aussi bien dans sa philosophie de la biologie que, comme vous le dites, dans sa philosophie de la technique.
Venons-en maintenant à des notions très singulières chez Jonas, notamment cette idée de responsabilité envers les générations futures. Qu'est-ce que ça veut dire que de prendre en compte les générations futures ? Est-ce que ça signifie que, finalement, dans la société, le modèle parental est une sorte d'archétype ?
Je pense que lorsque Jonas envisage une responsabilité envers les générations futures, il ne faut pas d'abord la comprendre comme une responsabilité envers des individus futurs qui n'existent pas encore et qui pour cette raison-là, ne peuvent pas nous réclamer des devoirs. Mmh. Il s'agit donc d'une responsabilité envers la possibilité de l'humanité. C'est celle-ci qui doit être préservée et qui pourrait être mise en péril par la technique, c'est-à-dire par l'unilatérisation qu'elle pourrait engendrer sur l'homme. L'homme est d'abord, et se définit avant tout pour Jonas, par des possibilités. Or, il faut préserver chez l'homme ce foyer de possibilités qu'il est.
Oui, oui, oui. On voit bien quand même aussi aujourd'hui combien c'est pertinent de penser aux générations futures qu'on endette déjà ou à qui on laisse une planète saccagée. On voit quand même que là, effectivement, malgré tout, concrètement, il y a une sorte de devoir vis-à-vis des générations à venir.
Absolument. Et pour revenir un tout petit peu en arrière à l'égard de ce que vous disiez concernant la responsabilité parentale, oui. Celle-ci est un modèle pour penser la responsabilité envers les générations futures, mais elle n'est qu'un paradigme, d'accord, un modèle. Elle ne dit pas tout de notre respect à l'égard des générations futures.
Oui. C'est-à-dire que l'engagement que l'on a à respecter, ou la responsabilité que l'on a, ce n'est pas simplement à l'égard de l'humanité à venir, à naître, mais c'est aussi à l'égard de la nature telle qu'elle est, ou la vie telle qu'elle est.
Effectivement, c'est-à-dire que l'éthique jonassienne est une éthique, je crois qu'on peut assumer le mot, biocentrée. C'est-à-dire qu'elle porte aussi bien sur l'humanité que sur la vie. Bien sûr, avec une différence de valeur, l'humanité ayant une priorité axiologique sur le respect que l'on doit à la vie. Et voilà pourquoi le premier mot, voilà une des raisons pour lesquelles l'éthique médicale, finalement, est un des premiers aspects sur lesquels va se tourner Hans Jonas.
Alors, vous dites très bien dans votre livre, Hans Jonas et le principe de responsabilité, que la médecine pour Jonas doit rester un art et non pas une technique de soins. C'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'un progrès technique a été trouvé qu'il faut l'appliquer.
Cela correspond à une demande même, je pense, des personnels de santé. Qui ont parfois le sentiment de subir un mouvement technoscientifique dont ils ne comprennent pas complètement la logique, à l'égard duquel ils sont inquiets parce qu'ils ont l'impression que ce mouvement n'est pas nécessairement au service du patient.
Oui, mais on pourrait dire que la technique n'a pas de logique, elle est neutre.
C'est précisément d'une certaine manière cette neutralité qui, pour Jonas, est inquiétante. Oui, oui. L'art médical n'étant pas neutre, mais au contraire positif, c'est-à-dire dirigé vers le bien-être du patient et de son corps tout particulièrement.
À vous lire, on comprend quand même que Jonas s'est senti très impliqué dans un certain nombre de situations médicales justement qui ont changé avec le progrès des techniques, notamment la progression médicalement assistée, le problème du don de sperme, les embryons surnuméraires. Et là, on le sent quand même un peu conservateur. C'est pas forcément une critique, mais en tout cas en retrait ou bien très méfiant à l'égard de ces innovations.
Je souscris tout à fait à ce que vous dites. Il y a une dimension conservatrice dans la pensée jonassienne qui tient, me semble-t-il, à l'exigence de faire contrepoids au mouvement aveugle du mouvement technoscientifique. Et ce qui me permet d'ajouter que ce conservatisme doit être tout de suite, malgré tout, tempéré. Ce qu'essaie de faire Jonas, me semble-t-il, ce n'est pas d'imposer une vision des choses, mais c'est de rétablir la possibilité d'un questionnement sur ce que le mouvement technoscientifique pourrait avoir tendance à abolir.
Malgré tout, on sent qu'il se méfie de l'emploi, par exemple, des embryons surnuméraires, que vis-à-vis de l'euthanasie aussi, de la mort digne, il a beaucoup de réserves. Est-ce qu'on pourrait dire que, du point de vue bioéthique, Hans Jonas est un peu à l'origine aussi de cette idée du principe de précaution qui envahit un peu la sphère morale aujourd'hui concernant la médecine ou les techniques. Oui.
Je distinguerais peut-être un petit peu les deux points. Le principe de précaution s'exerçant peut-être davantage, en tout cas historiquement, sur des questions liées à l'environnement.
Oui.
Et pour revenir à ce que vous dites sur le conservatisme jonassien, il me semble que, certes, il peut avoir des positions restrictives sur les points que vous avez donnés, mais en ce qui concerne vous aurez noté qu'en ce qui concerne la gestation pour autrui, ce qu'on appelle aujourd'hui la gestation pour autrui, il se montre assez ouvert, ce qui n'est pas le cas d'autres personnes qui pourraient être jugées conservatrices.
Ouvert à l'intérieur d'une même famille, enfin, les choses assez surprenantes.
Il envisage la possibilité explicite d'une gestation pour autrui, en indiquant les possibilités.
Absolument. En tout cas, on comprend que c'est la vie elle-même qui commande le respect, face au danger de la technique. Et vous nous aidez à comprendre cette pensée complexe et en même temps à la fois abstraite et très concrète. Donc je recommande ce livre, Hans Jonas et le principe de responsabilité, paru au PUF, et votre traduction de l'art médical et la responsabilité humaine, paru au CERF. Vous pouvez retrouver le journal de la philosophie sur le site de franceculture.fr.
Merci François, ainsi s'achèvent les nouveaux chemins, mais pas d'inquiétude, on se retrouve demain bien sûr pour la suite de cette semaine consacrée à l'éducation. Demain, il sera question de l'Émile de Rousseau, c'est-à-dire d'éducation négative et alternative, ou comment l'éducation peut se passer de l'instruction, pour un temps du moins. Pour réécouter cette émission, rendez-vous sur le site internet franceculture.fr à la page des Nouveaux Chemins. Vous y trouverez toutes les indications bibliographiques et musicales concernant l'émission du jour et toutes celles de cette semaine. Vous pourrez également télécharger, podcaster cette émission afin de l'écouter où vous voulez et quand vous voulez.